Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 25 janvier 1515, le sacre de François Ier. Le 1er janvier 1515, François Ier devient roi de France au décès de Louis XII. Le 18 janvier, le jeune roi et sa mère, Louise de Savoie, suivis de la cour, à l'exception de la reine Claude, alors enceinte, quittent Paris. Le cortège arrive à Reims 6 jours plus tard. L'archevêque Robert de Lenoncourt accueille le souverain sur le parvis de la cathédrale et lui fait baiser les évangiles. Le roi assiste aux vêpres avant de rejoindre la résidence archiépiscopale. Dans la soirée, il revient discrètement dans la cathédrale pour procéder à des oraisons à l'instar d'un chevalier à la veille de son adoubement. À l'aube du 25 janvier, il est procédé à l'habillement du roi. François Ier enfile une chemise de toile ouverte devant et derrière pour l'onction, puis se couvre d'une tunique de soie blanche, également fendue, et d'une robe de damas blanc fourré. Peu avant 9h, il est conduit en la cathédrale par les évêques de Laon et de Beauvais, suivi des chanoines de Reims portant croix, cierges et encensoirs, qui chantent en procession. Installé dans le chœur, le souverain est entouré des 6 pères ecclésiastiques et des 6 pères laïcs qui procèdent au couronnement. Dans un premier temps, François Ier est assis face à l'archevêque, dos à la nef. Il attend l'arrivée de la Sainte Ampoule qui, selon la tradition, contient l'huile céleste portée par une colombe à Saint-Rémy le jour du baptême de Clovis. Elle est employée pour le sacre depuis 869, quand l'archevêque Hincmar l'a utilisée pour oindre le roi de Lotharingie, Charles le Chauve. Avant l'onction, le roi promet de défendre les privilèges canoniques, les lois et la justice de l'Église. Puis la main sur les évangiles, il s'engage à préserver la vie paisible du peuple chrétien, à empêcher les rapines et les iniquités, à faire respecter l'équité et la miséricorde dans les jugements, et à exterminer les hérétiques. Après avoir baisé les évangiles, François Ier est mené devant l'autel où il s'agenouille. Là sont réunis les ornements royaux, la grande couronne, l'épée, les bottines, les éperons d'or, l'anneau et le sceptre, la main de justice, la robe et le manteau semé de fleurs de lys d'or. Le grand chambellan chausse le souverain de ses bottines, tandis que le duc d'Alençon, doyen des pères laïcs, attache les éperons qui sont aussitôt retirés. L'archevêque bénit l'épée royale appelée joyeuse, qu'il sainte au roi tout en l'invitant à défendre l'Église et à détruire les ennemis du christianisme. Extraite de son fourreau, l'épée est embrassée par le souverain, puis déposée sur l'autel. L'archevêque rend l'épée nue au roi agenouillé. Il la confie au connétable qui la brandit durant le restant de la cérémonie. Vers 10h, survient l'instant crucial de l'onction. L'archevêque prélève une goutte du baume de la Sainte Ampoule avec une aiguille d'or. Il la dépose sur la patène avant de la mélanger aux crèmes avec son pouce. Les évêques et le chœur entonnent le Kyrie Eleison. Les litanies achevées, François Ier s'agenouille et le consécrateur procède à l'onction sur 7 parties du corps royal. Le sommet de la tête, la poitrine, entre les épaules, sur chaque épaule et au pli des bras. Ce faisant, il prononce la formule latine signifiant « Je toins roi avec l'huile sanctifiée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce à quoi l'assistance répond « Amen ». Le roi revêt alors la tunique, la robe et le grand manteau du sacre. Une ultime onction est réalisée sur la paume des mains, l'archevêque précisant qu'elle est accomplie sur le modèle de celle reçue par David, du prophète Samuel. Il est maintenant 11h. Ouin, le souverain, reçoit l'anneau, le sceptre et la main de justice. Les six pères laïcs s'assoient autour du roi, avec les six pères ecclésiastiques. L'archevêque de Reims, les évêques de Laon, Langres, Beauvais, Châlons et Noyon, ils procèdent au couronnement. Le consécrateur conduit François Ier à son trône qui est placé sur une plateforme. Une fois le souverain assis, l'archevêque l'embrasse et proclame « Viva Rex in aeternum ». Les autres pères reprennent cette acclamation. Les trompettes et les orgues se mettent à sonner. Le peuple s'écrie à son tour « Vive le roi !». Le Te Deum est ensuite entonné pour rendre grâce à Dieu et l'archevêque célèbre la messe. François Ier est invité à baiser de nouveau les évangiles, puis au moment de l'offertoire, il reçoit un broc d'argent rempli de vin contenant 13 pièces d'or qu'il dépose en offrande. La messe achevée, le roi est mené par ses pairs jusqu'au maître-autel où pour la première fois il communie sous les deux espèces, le pain et le vin. À 13h, précédé du connétable qui brandit toujours l'épée, François Ier sort de la cathédrale et gagne le palais archiépiscopal pour s'y restaurer. Il s'installe au centre de la table et père s'assoit à ses côtés selon une disposition analogue à la Sainte Cène. Après avoir quitté Reims, François Ier se rend à Corbeny, modeste localité de la vallée de l'Aisne, dans le diocèse de Laon, pour prier sur le tombeau de Saint Marcoul, guérisseur des écrouelles. Ce pèlerinage lui confère un pouvoir thaumaturge. Le roi se prête encore à une seconde cérémonie de couronnement en la basilique royale de Saint-Denis avant d'entrer solennellement dans Paris le 15 février 1515. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » qui a été préparée par Emmanuel. Nous écoutons Nicolas Perrac, un titre de 1975, « So Far Away from LA ».
Ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz, traîne encore. Les sanglots couleur de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow. Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills. Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow. Thank you. from Frisco. I'm no one but a shadow. Pauvre madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco. Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA. Far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, shadow.
Vous écoutez Historama, l'émission historique de Radio Judaïca, la chronique littéraire, un jour trois livres préparés par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons par un roman tout à fait remarquable signé Françoise Chandernagor aux éditions Albin Michel, Le Jardin des Cendres. Voici le quatrième tome de La Reine oubliée, consacré à la saga de Sélénée, fille de Cléopâtre et reine de Maurétanie, sous la Rome impériale de Tibère et Caligula. Après la mort de trois de ses enfants, Sélénée ne renonce pas à engendrer de nouveau un fils capable de venger des Romains sa famille assassinée. Délaissant son jardin de Césarée, elle fait le tour des sanctuaires propices à la fécondité. Grèce, Asie mineure, Syrie, Palestine, partout, Rome domine, opprime et crucifie. Quand naît enfin Ptolémée, l'héritier tant attendu, elle tremble d'abord pour lui. Mais lorsque succédant au roi Judas, son père, le jeune homme est couronné, c'est vers le nouvel empereur romain qu'elle tourne ses espoirs. Caius n'est-il pas le cousin de son fils? Il n'a que 24 ans et depuis l'enfance, on le surnomme affectueusement Caligula. Le Jardin des Cendres de Françoise Chandernagor s'est publié aux éditions Albin Michel, toujours chez Albin Michel, Avant la fin du monde de Laurent Decaux. Tout entière vouée au commerce maritime, Gênes, la superbe, inonde l'Europe d'esclaves, d'épices et de soieries. Aussi, lorsque l'empereur mongol assiège Kaffa en Crimée, sa principale colonie d'Orient, la jeune république envoie son armada avec à sa tête Daniele De Mussi, capitaine à la retraite, et son fils Vittorio, frêle jeune homme qui se rêve copiste, qui sont embarqués de force dans cette aventure. À bord d'une galère, l'ordinaire de la marine génoise, ils vont devoir se plier aux règles d'un univers des plus oppressants, avec au bout du chemin le plus grand fléau de tous les temps, la peste. L'auteur s'est inspiré de l'histoire des semeurs de peste. En effet, en 1346, les Mongols, atteints par la peste, auraient volontairement catapulté des cadavres de pestiférés par-dessus les murailles de la cité pour gagner le siège de la ville en y introduisant le fléau. Les puces porteuses du bacille pesteux accompagnèrent ensuite les Génois à leur retour vers l'Occident et la propagation de l'épidémie fut foudroyante. Avant la fin du monde, de Laurent Decaux, c'est aux éditions Albin Michel. Et pour terminer cette chronique, et par là même cette émission, Le roi et l'horloger d'Arnaldur Indridason aux éditions Métayer. Au XVIIIe siècle, l'Islande est une colonie danoise gérée par les représentants de la couronne qui souvent usent de leur autorité pour s'approprier des biens en profitant en particulier des lois qui condamnent les adultères à la peine de mort. Le roi Christian VII, considéré comme fou et écarté du pouvoir, traîne sa mélancolie à travers son palais jusqu'au jour où il rencontre un horloger islandais auquel a été confié un travail délicat. Une amitié insolite va naître entre les deux hommes à travers la terrible histoire du père de l'horloger. Le souverain va découvrir la réalité islandaise et se sentir remis en cause par la cruauté qui s'exerce en son nom. C'est l'histoire de l'Islande et du Danemark qui nous est ici contée avec tout le brio et la puissance d'écriture de l'auteur. Le roi et l'horloger de Arnaldur Indridason, c'est aux éditions Métayer. Voilà, ainsi s'achève cette émission Historama. Nous nous séparons en chanson avec toujours Nicolas Perrac, après avoir remercié Lucas qui a réalisé cette émission. Nous écoutons un titre de 1976, peut-être l'un de ses plus grands succès, « Et mon père ».
Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wawa, c'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez, Aragon n'était pas un minet, Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles, et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts. La pilule n'existait pas, fallait pas jouer à ces jeux-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même vous faisiez l'amour. Aujourd'hui, deux salades, trois tirades, c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son Eva l'avait accompagné, des fois qu'il aurait voulu draguer. Qui sait si là-haut il n'y a pas des folles, et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait que viendraient mes cadets. Quand vous chantiez en ce temps-là, l'argent ne faisait pas la loi, les hit-parades n'existaient pas, du moins ils n'étaient pas de bois. Tu mettais des semaines, parfois des années. Si t'avais pas de trip, ta boutique tu pouvais la fermer. Et Trainet avait mis des années, Brassens commençait à en baver, et Beko astiquait son clavier. Monsieur Brel ne parlait pas encore des folles, et mon père venait de débarquer. Là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Et Juliette avait encore son nez, et Aragon n'était pas un minet, Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles, et mon père venait de débarquer. Là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. La 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 la.
Thank you.